Mobile studio.
Studio mobile, Radio Diwa, ici à
Thomas Vitran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici à ce Tous en bottes 2018 pour présenter l'atelier Ossental, un atelier qui travaille essentiellement le bois sous divers aspects comme la charpente, les ossatures et puis aussi la création de mobilier écologique. Vous êtes installé à La Bâtie, à Mont-Saléon, ça se trouve où ?
La Bâtie Mont-Saléon, c'est entre Serres et Vennes, du coup dans les Hautes-Alpes. Voilà, donc c'est un atelier qui fonctionne effectivement sous deux points. Il y a la section charpente, ossature, et puis la section création mobilier. Donc ça, c'est plutôt le secteur que je développe parce que les charpentiers, il y en a beaucoup dans les Hautes-Alpes. Et puis, à travers la création du mobilier, c'est l'occasion pour moi de laisser plus libre cours à la créativité, en fait, autour du bois massif.
Comme vous le dites, vous travaillez le bois, et particulièrement le bois local.
Oui, il y a
quelles essences ?
J'ai une préférence pour le mélèze du dévoluy, qui a une couleur plus rouge que le mélèze qu'on trouve dans le Kera ou de Sibérie, qui va être plus orangé. Donc il a une particularité, on le reconnaît. Après, ça va être l'isier qui vient d'Arambe, qui est la montagne juste en face de chez moi. Après, ça va être du chêne aussi, qui peut venir d'un peu plus loin quand même, pour avoir des belles pièces de chêne. Ça va être du sycomore, ça va être du châtaignier que je suis allé chercher dans le Vivarais. Voilà, donc c'est des essences endémiques en tout cas à notre région et à celles qui sont autour. Ouais.
Pour travailler le bois, vous avez eu une formation de menuisier charpentier ?
Alors c'est une formation de charpente. Moi, je suis formé en charpente, charpente de bois. Et la menuiserie, c'est quelque chose que j'ai développé avant ma formation de charpente en autodidacte. Et que j'ai développé parce que c'est vrai que j'ai une préférence pour la menuiserie malgré la formation en charpente. Voilà, surtout autour de la créativité, pour exprimer un peu des formes et puis des mariages d'essence du bois. Ouais.
En plus de la charpente, vous travaillez du mobilier. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus récent ou c'est une chose qui vous avait intéressé très jeune, en autodidacte ?
Non, le travail du bois, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 5 ans. Avant, j'étais plutôt orienté sur une vie en mouvement, c'est-à-dire autour de la récolte des fruits et du voyage. Et puis, on s'est sédentarisé dans les Hautes-Alpes et ça a été l'occasion pour moi de développer cette découverte autour du bois. Ouais.
Ces mobiliers qui sont en présentation, hein, il y a quelques tables basses, des étagères, on peut dire. Ce sont des lignes que vous avez vous-même dessinées ?
Il y a toujours une part d'inspiration de ce qu'on voit, mais le but, c'est quand même de ne pas reproduire des choses qui existent, c'est vraiment laisser libre cours à la créativité, à l'imagination, même si on s'inspire. Moi, je ne veux pas refaire des choses que j'ai vues. C'est vraiment d'amener quelque chose de nouveau. Et après, il y a aussi on a des phases. Hein. Il y a des phases où ça va être plutôt des lignes épurées, et puis des moments où on a envie de plus de courbes. Là, je me suis orienté un peu plus sur un travail réduire l'utilisation des machines et travailler plus avec des vastringues, des rabots pour donner plus de courbes et dans les piétements et tout ça pour les tables et les tabourets et de la chaise aussi. Ouais.
Cette technique de mêler plusieurs essences par assemblage de pièces de bois, comment s'appelle-t-elle ? Il n'y a pas de nom,
c'est vraiment,
simple inspiration.
C'est créer du contraste avec les différentes essences hein, qui amènent du contraste et qui peuvent créer des motifs qui attirent l'œil, ouais, qui sont plaisantes. Après, d'utiliser aussi une essence unique dans du mobilier, c'est plus facile à mettre dans une pièce déjà aménagée. C'est vrai qu'il y a des fois, il faut que les styles se marient quand même, ouais.
Et puis les bois ne réagissent pas pareil avec le temps. C'est pris en compte ça ou il y a une stabilisation du matériau?
Non, là c'est essentiellement des feuillus, des bois plutôt durs. Du coup, ils réagissent à peu près pareil. Même si des fois, je peux mettre une lame de mélèze entre du chêne et de l'érable. Mais comme c'est des petites sections, les mouvements sont infimes et ça ne va pas créer de problème. Après, dans le travail du massif, par contre, on est confronté au mouvement du bois. Et il faut l'anticiper et laisser le bois vivre. Sinon, c'est voué à fendre ou à craquer. Donc, c'est à prévoir. Ça fait partie de la technique de menuiserie et ébénisterie. Oui.
Et ça, c'est des choses que l'on apprend en théorie, d'étudier le bois dans son comportement.
C'est ça.
Mais il y a aussi l'expérience.
Oui, quand même, oui. Et puis, oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on apprend. Après, il y a aussi des erreurs qu'on fait et elles sont là pour nous apprendre. Et puis, des choses qu'on teste pour voir si ça passe et puis si ça peut. Voilà. Garder ou jeter certaines techniques qui ne sont pas appropriées des fois.
Et le fait de vous être installé en tant que charpentier, créateur de mobilier, c'est le fait même de venir vivre dans les Hautes-Alpes qui vous a inspiré cette activité? Ou alors il y avait un...
Non, il y avait vraiment un attrait ancien autour du bois. Pendant les voyages, j'ai été vraiment attiré par les constructions en bois en Asie, les maisons en teck, le bambou aussi qu'on utilise beaucoup. Et ça, c'était vraiment des choses que j'avais déjà, qui avaient éveillé un intérêt chez moi. Et c'est plutôt la sédentarisation qui m'a permis de mettre en place un atelier et de vraiment m'ouvrir à cet univers. Ouais.
Je connais un petit peu aussi la technique d'assemblage en menuiserie, particulièrement celle du Japon. Vous vous êtes intéressé à ces techniques?
Alors, il y a aussi la charpenterie du Japon qui est très particulière avec des assemblages de folie.
Oui, c'est ça. Oui.
Ouais. Alors, j'ai regardé. Après, c'est vrai que c'est des bois plus tendres qui sont utilisés au Japon. Donc, les techniques ne sont pas forcément appropriées à des bois plus durs qu'on peut utiliser dans nos régions. Après, moi j'ai des techniques plutôt conventionnelles et aussi de tester des choses. Là sur la table basse en noyer, je me suis amusé à faire des pieds qui rentrent en incrustation dans le plateau en noyer avec des rainures languettes qui sont creusées dans le piétement. Enfin, du coup, c'est des essais aussi. Et, c'est des tests pour voir. J'avais déjà fait une table de ce type-là il y a plusieurs années. Et c'était de voir si la technique était bonne dans le temps. Et comme elle était bonne, je l'ai renouvelée. Ouais.
Cette production de mobilier, comment est-elle visible en dehors de votre atelier? Vous avez des dépôts-ventes ou alors...
Alors c'est,
vous avez des commerçants qui prennent votre production?
C'est tout nouveau, là, l'exposition. Jusque-là, je travaillais beaucoup sur de la commande. Donc ça laissait peu de temps à la création de pièces, même si les gens, quand ils font une commande, il y a une part de création, parce que l'idée est toujours vague et c'est à nous de la préciser. Mais là, c'est nouveau, en fait, de passer plus de temps à la création et de prendre moins de commandes pendant la période de production. Et du coup, là, ça va être de faire des foires, d'être visible à travers... Il y a des dépôts artistiques et artisanaux sur serre aussi. Donc voilà, ça va être surtout sur du circuit de proximité et puis ces belles initiatives qui sont faites comme à Serre où on montre les savoir-faire qui sont, et même ici, comme à Tous en Botte, c'est vraiment l'occasion de découvrir tous les savoir-faire qu'il y a ici autour de nous, quoi.
Comment des personnes peuvent vous connaître actuellement? Vous avez un site internet ou alors vous avez une visibilité
C'est en train. Non, j'ai pas encore. Le site internet, il va être lancé rapidement parce qu'il y en a besoin. Après, ça a été beaucoup du bouche à oreille qui m'a suffisamment occupé pendant la production, sachant que j'ai une autre activité l'été. Donc je fais de la production bois que sur l'automne et l'hiver. Donc ça va être essentiellement le site internet et puis les foires, oui.
Alors ça veut dire que vous tournez pendant la période d'été, ou printemps, été,
pour prospecter?
Oui, c'est ça, ou de vous voir à des foires?
Non, l'été, non. Ma deuxième activité m'empêche complètement de libérer du temps. Donc, c'est plus pendant les foires de printemps de faire de la prospection pour m'engager pour l'année suivante. Et puis après, c'est un réseau. Une fois qu'on a sa place, on reste sur ce réseau-là. Ouais.
Quelles sont ces influences qui vous ont poussé à concevoir les meubles qui sont en présentation, c'est-à-dire un mélange de diverses essences avec des couleurs différentes, et en même temps il y a une pureté de ligne minimaliste, je dirais.
Alors il y a des lignes épurées sur une table basse en noyer avec des pieds qui sont en érable sycomore. Donc là, oui, c'est des lignes épurées. Ça, c'est une influence outre-Atlantique, ça. Donc ça se fait beaucoup par là-bas. Et donc je me suis inspiré. C'est un plateau qui est raboté à la main entièrement parce que mes machines sont pas assez grandes pour passer une planche aussi large. Donc tout est fait à la main. Il y a une coupe d'onglet pour rejoindre le pied et garder la continuité du fil. Donc, et j'ai juste créé les pieds avant. Ça, c'est la partie personnelle. Après, il y a des lignes plus épurées sur une autre table. Et là, je me suis lancé sur la troisième table. C'est plus des courbes. Là, c'est ce que je vous expliquais. C'est plus le travail à la vastringue et au rabot pour mettre des mises en forme plus en courbe. Ouais. Après, les plateaux, c'est des choses que j'ai fait au début, les mélanges d'essence. Là, c'est le hasard complet. C'est-à-dire que j'avais des chutes. J'ai lancé une série de planches à découper en bois de boue. Et en préparant des plateaux, des collages, j'ai eu un bel assortiment et je me suis dit que c'était dommage de le recouper en planches et je suis parti sur deux tables basses avec ce collage-là.
En plus du mobilier, vous pratiquez la charpente. Pour ça, vous avez une activité qui vous prend beaucoup de temps ?
La partie charpente, c'est la moins développée de mon activité.
Qui nécessite quand même une grande disponibilité lorsque c'est en cours.
Ah oui, oui, tout à fait, oui. Et puis c'est un autre travail, c'est-à-dire l'atelier, moi j'ai pas la place de faire de la production en atelier de charpente, donc c'est de la taille sur site. Donc c'est plutôt des commandes de personnes qui veulent de la belle charpente. Je propose quelque chose qui va être taille à la main, donc c'est pas de la production rapide et faite par les machines comme c'est dans le cas souvent maintenant dans notre département. Voilà, donc c'est un type de clientèle bien précis, en essayant de rester concurrentiel sur le niveau des prix. Oui.
Par rapport à la charpente, qu'est-ce qui se pratique ? Quelle essence est utilisée aujourd'hui ? C'est toujours du chêne ou alors
non,
c'est
le
plus
chêne,
le sapin ou le pin ?
Non, le chêne, c'est très rare qu'il soit utilisé dans la charpente dans notre région. Ce sera plus dans les régions du centre, voire du nord. Après, il y a des gens qui veulent de la charpente chêne pour donner un certain cachet, mais c'est vraiment une partie faible de la demande. Donc, dans les Hautes-Alpes, ça va être surtout du mélèze. Ça, c'est vraiment la demande, puisque c'est une production locale. Et puis, ça va être l'utilisation du Douglas aussi, qui est un bois qui se prête tout à fait à la charpente, qui reste droit, qui est un classe 3, c'est-à-dire qui va résister un peu aux intempéries. Donc, c'est un bois qui est en très forte demande. Sachant que moi, je ne veux pas utiliser des bois traités en chimie ou en thermique.
Voilà, donc vous travaillez dans l'éco-construction et c'est pour ça que vous êtes présent à ce Tous en Bottes.
Ouais, c'est un choix vraiment de travailler sur des matériaux sains et d'utiliser des finitions, soit de limiter les finitions. Et quand j'en utilise, c'est vraiment d'utiliser des produits sans solvant et le moins polluant possible. Ouais.
Quels sont justement les vernis ou les éléments qui puissent donner une patine ou alors conserver le meuble ?
Alors ça va être des vernis essentiellement à base d'eau.
Oui.
Donc c'est souvent dans des gammes écologiques. Et donc ça c'est plus pour garder des teintes non modifiées. C'est pour pas avoir cet aspect patiné sur les anciens vernis qu'on pouvait avoir avant, ce qui est moins demandé aujourd'hui. On cherche plus à avoir le veinage du bois aujourd'hui. Avant le vernissage faisait partie intégrante du meuble. Aujourd'hui on cherche plus à avoir le bois. Donc c'est des vernis très clairs, limite perceptibles. Et sinon ça va être beaucoup des huiles dures, des huiles avec des cires mélangées pour donner, ça va donner un aspect plus chaleureux et faire ressortir le veinage du bois.
Et vous travaillez avec ces huiles, vous les créez vous-même ou alors elles sont disponibles
Non, c'est dans des gammes de produits écologiques, ouais. Mais à long terme, c'est pas impossible que je fabrique moi-même les huiles et puis les colles aussi. C'est vrai qu'il y a les vieilles colles d'ébénistes qui sont intéressantes à travailler aussi.
Les commandes que vous avez en général sont souvent de particuliers.
Oui, oui, oui.
Vous n'avez pas encore une institution, une école?
Non, non, non.
Ça ne vous intéresse pas forcément, peut-être?
Bah, une école, ça va être du mobilier. C'est souvent fait avec des panneaux de particules. C'est des choses que je travaille. J'essaie de pas trop travailler. Ouais. Il y a vraiment un choix autour du bois massif, autant pour ma santé que ça ne m'intéresse pas de faire des meubles que j'estime pas très sains pour la santé et surtout pour mettre dans des salles où il y a des enfants. Ouais.
Et justement, il n'y a pas un renouvellement de ce type de matériaux, puisque vous parlez de panneaux stratifiés ou concentrés, enfin comment vous aviez dit.
Oui, c'est des panneaux, ça va être des agglomérés.
Oui,
oui.
Et ça, c'est il y a un monopole quelque part là-dessus.
C'est pas qu'il y a un monopole, c'est que il y a aussi c'est le phénomène de qu'est-ce qu'on propose à la clientèle et comment on formate aussi les goûts actuels, les cuisines d'aujourd'hui. Il y en a très peu en bois massif. Hein, ça va être beaucoup du panneau. Et les gens voient ça, du coup c'est ça qu'ils veulent. Je résume un peu, mais c'est comme ça. Et puis c'est souvent aussi qu'on me montre des modèles de meubles en me disant que c'est du bois massif, mais c'est l'appellation bois massif, mais c'est absolument pas du bois massif, ou alors à 10% seulement. C'est du plaquage, mais c'est des panneaux souvent. Oui. Donc c'est vrai que mon mobilier, il s'adresse à des gens qui ont le goût du bois et qui connaissent un peu aussi, savent faire la différence entre un bois massif et un bois aggloméré qui va être plaqué. Et voilà. Après, la qualité environnementale des panneaux, elle progresse un peu. Donc, c'est vrai que par rapport à il y a 10 ans, on avance là-dessus. Mais voilà, c'est pas forcément très intéressant à travailler, même s'il y a une demande. Voilà. C'est des choix après d'éthique. Ouais.
Donc là, il y a quelques prototypes ou alors ce sont des éléments de série que vous produisez aussi?
Non, de la série, ça n'existe pas à mon niveau. Ça ne m'intéresse pas non plus.
Des plans ou des épures qui vous permettent de produire?
Il y a des gabarits. Il y a des gabarits que je vais conserver et réutiliser d'un projet à l'autre pour donner une forme qui va être similaire. Mais le but, c'est quand même de rester sur beaucoup de pièces uniques qui donnent une valeur au mobilier.
Et vous n'avez pas encore de site internet, donc il est en cours de construction.
Il n'est pas en cours, il va se faire pendant l'hiver, quand j'aurai un peu plus de disponibilité. Je le lancerai à ce moment-là.
Comment vous joindre, par exemple, si des personnes voudraient connaître votre travail?
Le mieux c'est de me contacter sur mon mail ou par téléphone et après je transmets. Là j'ai un book consultable là sur le stand et qui peut être aussi consultable après en PDF que je peux envoyer aux gens pour voir, sachant que le point de départ c'est une idée et après c'est quelque chose qui se travaille ensemble ou alors ça fait partie de mes créations qui plaisent aux clients.
Est-ce que pour exercer cette activité, vous avez, suffisamment de travail pour ne pas avoir besoin de soutien financier autre?
Non, je ne suis pas, c'est une activité qui ne se suffit pas elle-même pour l'instant à ce stade-là. C'est en développement personnellement, je ne tiens pas à faire la même chose toute l'année et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai deux activités. C'est aussi, ça fait partie d'un caractère personnel, c'est de faire des choses différentes dans l'année, ouais, pour pas tomber dans une répétition, une monotonie. Ouais. Du coup je suis content de retourner à l'atelier à la fin de l'été et je suis content d'en sortir au printemps.
Vous avez par exemple je pensais à une chose, des demandes spécifiques qui sont de véritables défis pour vous dans la conception et la fabrication?
Oui, il y a eu deux pièces. C'était des beaux chantiers puisque c'était des cuisines en bois massif. Du coup, ça représente un chantier assez intéressant dans le sens où c'est tout un ensemble de meubles et comme c'est en bois massif, ça représente beaucoup de travail. Et puis un grand plan de travail en platane aussi de plus de 4 mètres de long à faire avec cette essence qui est méconnue mais qui mérite d'être découverte. Ouais.
Cette activité, vous essayez toujours d'œuvrer dans une nouveauté, on peut dire un challenge.
Oui, moi je suis d'accord avec ce terme challenge, c'est de pas être dans une routine. Ouais. Voilà. Je n'avais pas envie de produire de la fenêtre en série. Ouais.
Et est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de la demande de particuliers dans ce genre de travail du bois? Vous disiez, aujourd'hui, on peut parler de la grosse marque suédoise qui contente beaucoup de monde, mais il y a des puristes qui exigent toujours du véritable ouvrage.
Oui, mais après, c'est toujours pareil, ça tourne autour du cou. Et
cette demande, mais est-ce qu'elle est en constance ou alors il y a une augmentation en ce moment?
Alors, nous, on est dans le BH ici, hein, c'est une petite vallée. On n'est pas à Lyon où il y aurait une clientèle aisée qui serait prête à investir. Voilà, ça m'est arrivé de faire une très grande bibliothèque en chaîne pour des gens de Lyon qui ont des moyens différents de ce qu'on peut rencontrer dans le BH. Voilà. Après, c'est des coups de cœur. Hein. C'est pour l'instant, ça tourne au bouche à oreille. Du coup, c'est des gens qui voient ce que j'ai fait et qui sont intéressés. Et ça veut dire aussi tenir une réalité économique, c'est-à-dire de proposer des prix qui soient en accord avec le niveau de vie de l'endroit où on habite. C'est-à-dire, je peux pas. Il y a eu des meubles que je ne pouvais pas vendre au prix qu'ils valaient, parce que je les aurais pas vendus dans cette vallée ici, en tout cas.
Mais il existe aussi des gens qui ne comptent pas et qui ont envie d'un objet. Et je crois qu'ils ont une préférence pour quelque chose qui soit manufacturé.
Il me semble aussi, oui, tout à fait.
Ouais. Et cette clientèle-là, c'est dans celle-là que je voulais savoir.
Cette clientèle-là, il faut aller la chercher. Et du coup, ça se fait avec le temps. Moi, ça fait 4 ans que j'ai commencé l'activité. Et du coup, c'est encore les balbutiements. Mais c'est pour ça que là, je commence à plus être visible. C'est pour développer cette activité-là. Ouais. En fait, les 3 premières années, les commandes m'ont tenu bloqué à l'atelier. J'ai pas eu à me poser de questions par rapport à la visibilité. J'ai produit pendant 3 ans. Voilà. Là, j'ai envie de faire plus de pièces de ma propre création. Et du coup, ce sera de l'exposition en foire. Ouais. Donc, c'est vraiment à venir, ça, en tout cas, ouais, par rapport à cette clientèle-là. Ouais.
Je pense que Atelier au Santal, c'est en hommage au bois.
Alors oui, c'est un hommage au bois, c'est aussi un hommage au côté spirituel de toutes les choses. Et c'est aussi parce que c'est une enseigne commune avec ma deuxième activité autour de l'alimentation. Voilà, donc c'était pour élever un peu le. Je sais pas comment l'expliquer.
Et est-ce que vous avez dégagé sur un constat de ce que vous avez produit une certaine philosophie de l'esthétique que vous proposez?
Alors, je me rends compte aussi, en regardant ce qui se fait autour de moi, qu'on est forcément influencé par ce qu'il y a autour de nous. Donc, des fois, on peut trouver des similitudes dans d'autres créations, d'autres menuisiers ébénistes. Donc, on est obligé de se rendre compte qu'on est influencé par une certaine époque et un certain type de ligne. Mais c'est comme je vous disais tout à l'heure, on a nos propres périodes. C'est-à-dire que il y a des choses que je faisais il y a 2 ans, je ne les ferai plus aujourd'hui parce que ça ne me plaît plus. Et la philosophie principale, c'est ça tourne autour du bois massif, de respecter cette matière et de la mettre en valeur autour de la finition, de ne pas empoisonner les gens en leur proposant des belles choses. Voilà.
Eh bien, Thomas Vitran, merci en tout cas de nous avoir donné un peu de temps. Vous êtes situé donc au quartier La Madeleine, à la butte...
Bâtiment Saléon. ancienne.
La bâtie, ouais, Mont-Saint-Léon.
C'est un ancien site romain, oui. Joli village.
Et donc, si on veut vous joindre, il y a un numéro de téléphone, par exemple.
C'est le 06 74 33 24 20. Voilà, et l'atelier est ouvert aussi pour visite.
Voilà, vous êtes accessible assez
souvent.
Tout à fait.
Oui.
D'accord. Merci Thomas Vitron et ouais. Bonne fin de journée.
Et puis merci à tous en botte aussi, oui.
Au revoir.
Au revoir.
Quand j'étais minot, on avait démonté celui de... Là où c'est vrai.